Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Combien de fois devant de graves difficultés ne se demande-t-on pas ce que fait Dieu? Pourquoi tarde-t-il à intervenir, à répondre aux prières? On finit par se demander s'il existe encore, et s'il existe, alors où peut-il bien être? Cette question, beaucoup de gens se la posent à travers les frontières, et beaucoup de personnes se la sont posées à travers les siècles. Lorsque les apôtres et tous les martyrs furent persécutés, torturés et mis à mort, ils en vinrent peut-être eux aussi à se poser la question « Mais où donc est Dieu ?» Il y a 60 ans, en 1938, devant la précipitation des événements, les croyants espéraient que Dieu interviendrait pour maintenir la paix. Lorsque ce fut l'invasion de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, quand débuta la mobilisation et la déclaration de guerre qui firent suite à l'invasion de la Pologne, les églises se remplirent. On se demandait pourquoi Dieu n'intervenait pas, où pouvait-il bien être. Cette question devint presque un cri de révolte pour certains, qui voyaient des clochers et des bâtiments où l'on était supposé célébrer son culte s'effondrer. Ne pouvait-il pas protéger contre les bombes ce que les hommes considèrent comme ses lieux saints? Mais où est donc Dieu, se demandaient les gens, en voyant les quartiers, des villes entières, s'écrouler sous les bombes, comme ce fut le cas de Varsovie, Amsterdam, Londres, Coventry, Berlin, Hambourg, Dresde et tant d'autres. Mais où est Dieu, se demandaient les Juifs, sous la menace de la chambre à gaz et du four crématoire. Mais où donc est Dieu, se demandent encore aujourd'hui, tant de personnes affamées, nées dans un pays accablé par la sécheresse et par les inondations. Où donc est Dieu, se demandent les victimes d'épidémies, qui sont de plus en plus nombreuses de par le monde, telles le sida. Pourquoi Dieu ne réagit-il pas devant le spectacle macabre de ces enfants décharnés qui meurent de faim dans les bras de leur mère? Dieu pourrait intervenir, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Il y a une bonne raison à cela. Dans le livre de la Genèse, Dieu nous parle de deux arbres. L'un était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'autre était l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représentait le droit de décider soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolisait la vie sans conseil, sans aide de Dieu, une vie selon la conscience humaine, tandis que l'arbre de la vie symbolisait une vie basée sur la voie divine, sur la sagesse de Dieu, une vie qui mène à la vie éternelle. Si l'homme avait obéi à Dieu au lieu de s'opposer aux instructions divines, il aurait eu accès au Saint-Esprit, et il aurait reçu la connaissance spirituelle, il aurait été conduit dans toute la vérité. Mais l'homme a choisi de déterminer seul la connaissance du bien et du mal. C'est ainsi qu'il a acquis beaucoup de connaissances sur le plan physique, mais en général, il a peu de connaissances réelles sur le plan spirituel. Si nous comprenons cela, alors nous possédons déjà un début de réponse à notre question. Nous ne devons pas oublier que la véritable connaissance de Dieu, qui il est, ce qu'il est, ne peut être transmise que par le Saint-Esprit. C'est ainsi que le monde et la grande majorité des églises qui prétendent être chrétiennes ont une connaissance du bien et du mal, mais à leur façon uniquement et non selon les instructions divines. Elles n'ont pas la connaissance véritable telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Jésus a affirmé à son Père, « Ta parole est la vérité ». Chaque être humain croit détenir la vérité, mais il s'agit d'une vérité que l'homme se forge lui-même la plupart du temps, ou que l'Église qu'il fréquente forge pour lui. Mais, penserez-vous, ces chrétiens ne se basent-ils pas tous sur la Bible? C'est exact pour la plupart, mais trop souvent, ils tirent de la Bible les passages qui confortent des idées préconçues et ils rejettent les versets qui s'opposent aux croyances admises. S'il n'en était pas ainsi, nous n'aurions qu'une seule religion chrétienne dans le monde. Elle se plierait aux instructions bibliques. Toutes les églises chrétiennes observeraient les commandements, le même jour de repos, les mêmes fêtes annuelles. C'est ce que souhaite Dieu. Il voudrait qu'il n'y ait qu'un seul corps, un seul esprit une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Mais que constatons-nous aujourd'hui? Combien de dénominations prétendent être le corps de Christ? Combien d'esprits différents dans le monde chrétien? Combien de fois différentes, que d'espérances diverses pour ce qui se passera après la mort? Que de seigneurs différents n'a-t-on pas imaginé? Parce que l'on ne comprend pas que l'Éternel de l'Ancien Testament n'est pas le Père, mais celui qui allait devenir notre Sauveur. Sans s'en rendre compte, l'homme place sa foi en d'autres dieux, en des statues, des reliques, en une croix. Que de baptêmes différents ne connaît-on pas de nos jours? Que de contradictions et d'enseignements différents au sein de ces diverses dénominations. Est-ce cela ce que le Christ souhaite? Trouvez-vous toute cette confusion normale alors que Dieu est un Dieu d'ordre? Bien des hommes tiennent des raisonnements qui s'opposent à la parole de Dieu. Ils croient détenir la vérité, mais ils oublient que dès le commencement, l'homme a fait le mauvais choix. Il a rejeté la véritable connaissance spirituelle. Ils vivent tous dans le péché parce qu'ils font peu de cas de ce que l'apôtre Jean a écrit sous l'inspiration divine. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ce n'est qu'en reconnaissant que le Christ n'est pas venu abolir la loi, comme il l'a affirmé clairement, que l'homme finira par se libérer du péché. Le Christ est venu pour accomplir la loi, du grec « plérou », signifiant « magnifier, compléter, perfectionner », nous laissant ainsi un exemple que nous devons suivre. En fait, seul Dieu sait vraiment ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Le livre de la Genèse révèle « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder ». Adam pouvait très facilement cultiver le jardin et l'entretenir. Cette tâche ne nécessitait aucune connaissance spirituelle. L'esprit de l'homme, cette intelligence qui était en lui, lui permettait de comprendre suffisamment son environnement. Il ne faut aucune connaissance spirituelle pour cultiver ou entretenir un jardin. Par contre, la connaissance des valeurs spirituelles, l'amour de Dieu et du prochain, ne peut venir que par l'intermédiaire du Saint-Esprit de Dieu et par l'observance de ses commandements. L'apôtre Jean a écrit « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Tous ceux qui parlent si facilement de leur amour pour Dieu et pour leur prochain feraient bien de méditer ce passage des Écritures. Lorsque nous lisons les récits bibliques, nous pouvons y découvrir des événements que Dieu aurait pu facilement enrayer. Mais il aurait aussi probablement changé le cours de l'histoire humaine. Où donc était Dieu lorsque Adam et Ève transgressèrent l'ordre divin, la loi divine? Pourquoi n'est-il pas intervenu lorsque Satan a baratiné Ève? Dieu aurait pu intervenir et ordonner à Satan de s'éloigner. N'était-il pas capable de stopper ce serpent dans son entreprise de séduction? Bien sûr que si. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Essayons de bien comprendre la situation. Ève a le fruit en main. Elle ne l'a pas encore mangé, mais elle a bien l'intention de le faire. Que se serait-il passé si, à ce moment-là, l'Éternel Dieu était intervenu? « Arrête, Ève, si tu en manges, tu mourras exactement comme je te l'ai dit. » Si Dieu était intervenu à cet instant, il est fort possible qu'Ève n'aurait pas osé aller plus loin. Mais Dieu ne s'est pas montré. Qu'avait-il de plus important à faire? Une surveillance discrète du premier couple aurait été bénéfique, d'autant plus que Satan était dans les parages. Dieu était-il au courant de ce qui se passait? Oui. A-t-il laissé la femme libre d'agir selon sa convoitise? Oui. Reprenons la suite du verset. Elle prit de son fruit et en mangea, Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ici encore, Dieu aurait pu intervenir auprès d'Adam. « Attends, arrête, n'en mange pas. Puisque ta femme en a mangé, elle mourra. Mais toi, si tu continues à vivre en observant mes ordres et mes lois, ton corps physique sera transformé en un corps composé d'esprit. » Mais Dieu n'a rien dit à Adam. Il n'est pas intervenu au moment crucial. Il a laissé l'homme et la femme manger ce qui leur avait été défendu, ce qui ne leur appartenait pas. Il les a laissés faire leur choix en toute liberté, sans contrainte, obéir ou désobéir. Cependant, Dieu n'était pas loin, comme le prouve la suite du récit. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Dieu réapparaît. Il avait laissé au premier couple son libre arbitre. Il les avait prévenus. Ils ont fait leur choix, ils ont mangé ce qui leur était défendu. L'Éternel interroge l'homme, « Où es-tu ? » À ce moment, Adam aurait pu rétorquer, « Mais toi, où étais-tu ? Si tu étais venu plus tôt, je n'aurais pas mangé de ce fruit. Pourquoi m'as-tu laissé faire ?» Et nous connaissons la suite de l'histoire. L'homme blâma la femme blâma le serpent ne dit rien, et pourtant de nos jours, tout le monde continue à blâmer Dieu. Dès le commencement, Dieu avait donné à l'humanité la liberté d'agir et de choisir. Si l'Éternel était intervenu, l'homme et la femme auraient perdu leur libre arbitre. Ils seraient devenus des automates, des robots, et ils auraient encore trouvé là une occasion de blâmer Dieu pour leur manque de liberté. Lors des autres exemples que je vous donnerai au cours de la prochaine émission, vous constaterez que Dieu était toujours proche, mais il décidait de ne pas intervenir. Dieu met en garde, et tout au long de l'histoire de l'humanité, il n'a cessé d'avertir les hommes de ce qui allait arriver. Il a envoyé ses prophètes, il a inspiré ses écritures qui contiennent tant d'avertissements, tant de bons conseils, afin que l'homme vive heureux et en bonne santé, mais en vain. À part quelques exceptions, l'humanité n'a jamais voulu se soumettre à Dieu, à ses lois et à ses commandements qui sont éternels. Lorsque Dieu expliqua les bénédictions qui découleraient de l'obéissance, ainsi que les nombreuses malédictions qui découleraient de la désobéissance, Dieu laissa à l'homme et à la femme une liberté totale, complète. Adam et Ève ont transgressé la loi. Ils ont péché en transgressant plusieurs commandements qui leur avaient été expliqués, comme l'indique l'apôtre Paul. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé lorsqu'il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Si Dieu impute des péchés à Adam, c'est parce qu'il avait donné la loi à Adam, sans quoi il n'aurait pu transgresser. L'humanité n'est pas coupable du péché d'Adam, mais cette transgression a eu des conséquences sur Adam et sur toute sa descendance. Dès ce péché, l'humanité avait besoin de l'avènement du Christ pour hériter la vie éternelle. C'est par Adam que la voie du péché est entrée dans le monde, mais l'homme n'est pas une victime innocente par suite du péché d'Adam, car tous ont péché. Je poursuivrai ce sujet afin que vous compreniez pourquoi Dieu n'intervient pas et que l'on cesse de le blâmer. C'est Jean Carillon qui vous parle et qui vous dit « Bonne semaine à vous tous et que Dieu vous garde ».